France Musique.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is an electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi j'ai trahi la musique respectable et concrète.
Bruno Le Thor.
Le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Nous recevrons dans cette émission Denis Boss, compositeur qui cultive avec subtilité une écriture éclectique en quête de liberté d'invention. Mais je vous propose d'ouvrir ce tapage nocturne avec la création que Nicolas Frise propose du 7 au 10 juin prochain à la Maison des Sciences de l'Homme à la Plaine Saint-Denis, en banlieue parisienne. Une création baptisée Elle s'écoule, où l'on parle du désir, ou plus exactement de désirer. Pour nous parler de cette œuvre, de cet événement, nous avons reçu Nicolas Frise. Il évoque le travail qu'il façonne depuis des années au sein de la cité. Bonsoir Nicolas Frise.
Bonsoir.
Alors vous investissez la Maison des Sciences de l'Homme à Saint-Denis, en région parisienne, en compagnie de musiciens professionnels et de jeunes du conservatoire, de collège et de lycée. Le fil rouge, c'est un peu le désir du désir. Vous pouvez nous raconter un peu ce projet?
Oui, en fait, il y a quelques années, j'ai rencontré une lycéenne sur un autre projet qui traînait un peu les pieds, qui disait qu'elle n'était pas heureuse là où elle était. Elle était roumaine, elle n'aimait plus la Roumanie, elle n'aimait plus la France, elle n'aimait pas la langue française. Et elle disait qu'elle était perdue. Et donc j'ai vu comme ça une jeune fille qui est en exil d'elle-même. Et je me suis dit, là, il y a un problème de désir avec cette génération, parce que je retrouvais ça chez d'autres jeunes, qui finalement n'arrivaient plus à émettre des désirs. Non pas qu'ils n'en avaient pas, mais il y avait une sorte d'autocensure. Ils sont tellement envahis par des choses anxiogènes, l'environnement, le terrorisme, le chômage, enfin bon, qu'à un moment donné, ils se disent, bon, ben finalement, il n'y a rien devant moi. Et rien devant moi, c'est rien en moi. Et je me suis dit, là, il y a un sujet, il faut qu'on travaille là-dessus. Et il faut qu'on essaie de regarder comment est-ce que... En fait, la question n'est pas seulement celle du désir, mais celle de désirer. C'est pour ça que je parle de désir, de désir, de désir. Désir de désir, c'est compliqué à comprendre. Mais si on dit désirer, on comprend plus facilement. C'est cette énergie qui fait que on a envie des choses. Et on ne sait pas encore de quoi. C'est un peu comme à l'adolescence, vous êtes amoureux, mais vous ne savez pas encore de qui. Et donc ça tombe sur n'importe qui. Et puis vous en changez tous les 15 jours. Voilà, donc c'est un peu cette soif de la vie, quoi, que je voulais essayer de réveiller dans une création, en faisant travailler donc des collégiens, des lycéens et des adultes. Déjà réfléchir là-dessus, donc on a lu tous les livres possibles et imaginables sur cette question du désir, et puis les faire travailler plastiquement et musicalement sur cette question, cette chose qui est en nous et qui nous pousse vers quelque chose. Voilà.
Vous travaillez beaucoup avec des musiciens et des non-musiciens, avec des jeunes et des adultes. Qu'est-ce que ça apporte dans votre écriture?
Bon, les musiciens professionnels, ils m'apportent que quand c'est écrit, c'est parfait, c'est formidable, c'est un pur bonheur, parce que c'est une chose dont on souffre quand on travaille avec des amateurs. Et les amateurs, ils m'apportent deux choses. D'abord, je suis subventionné, je travaille avec des fonds publics, donc avec votre argent, et j'aime bien l'idée de vous le rendre, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ne soyez pas seulement spectateur, vous n'avez pas seulement là... pour venir écouter ce que je fais, mais que vous puissiez aussi participer des créations qui se montent à votre époque. C'est-à-dire que vous puissiez être, à un moment donné, embarqué dans des choses, et puisqu'elles existent grâce à tout le monde. C'est aussi une façon d'être plus près des gens, parce que après les faire venir, c'est compliqué, alors qu'on est, si on est déjà auprès d'eux, il y a quelque chose qui se construit, qui se nourrit. Et puis ensuite, sur cette question du désir, alors là vraiment, il y a une raison d'être auprès d'eux, c'est parce que c'est vraiment... les musiciens professionnels, ils n'ont pas cette problématique. Ils l'ont peut-être dans leur vie privée, je sais pas. Mais en tout cas, eux, ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont 20 ans ou 30 ans ou 40 ans de carrière. Ils ont un cachet, ils ont une partition qui les passionne, ils ont une commande. La question du désir, elle se pose pas tant que ça, en fait. Et après, ils se posent des questions d'interprétation, de comment on met son corps dans les affaires. Mais je me disais que finalement, sur un tel sujet, il faut absolument travailler avec des gens.
Comment abordez-vous les lieux ? Est-ce que le lieu a un rôle important dans votre processus de création ?
Alors oui, et d'ailleurs, c'était pas facile avec la Maison des Sciences de l'Homme, parce que souvent, voilà, j'ai fait des créations dans des lieux très très marqués. Que ce soit une prison, un hôpital, une usine, les Archives nationales même, qui sont un bâtiment qui a très avec des fonctions très précises. Et là, la Maison des Sciences de l'Homme, c'est un lieu de ressources, en fait, dans lequel il y a des espaces qui sont dédiés à des fonctions, mais qui sont relativement homogène et surtout polymorphe. Enfin, il n'y a pas d'histoire fortement forte. D'abord, c'est une maison assez récente et les lieux ne sont pas marqués d'une fonction. Comme l'architecture m'intéresse beaucoup et j'écris beaucoup pour des lieux, je mets en scène la musique, je travaille la scénographie parce que je travaille l'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens, quand ils viennent quelque part écouter, ils soient mis dans une situation où ils sont mobilisés dans l'écoute. Ils ne sont pas assis sur un siège dans le noir. Ils sont mis en situation d'être interpellés, de s'engager physiquement dans quelque chose. Du coup, la place du public, s'il est assis autour, s'il est devant, s'il est derrière, d'où viennent les sons, comment est-ce qu'il comprend l'espace, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit pas, pour moi, ça fait partie de l'écoute. Alors on dira, mais non, c'est de la dispersion, il va écouter moins bien, mais pas du tout, il va écouter mieux. Enfin, je défends cette idée, je préfère un débat là-dessus avec les musiciens qui disent, mais non, mais dès qu'on se met à bouger, ils n'écoutent plus. Mais je pense que c'est pas si simple. Donc voilà, je travaille beaucoup la scénographie, et donc du coup, j'essaie de comprendre comment est-ce qu'on rentre quand on rentre dans un espace, qu'est-ce qu'on en perçoit. Et il y a des garçons de café qui racontent comment est-ce que quand on rentre dans un café, les gens vont toujours se mettre au même endroit. Ils repèrent l'endroit où on pourra être bien, c'est-à-dire en fonction de la lumière, en fonction du bruit, enfin tout ça. Et ben dans une salle de concert, c'est pareil. Quand vous avez eu le malheur de devoir acheter votre place 6 mois avant et que vous avez choisi la place pour des raisons économiques, là vous avez la possibilité de vous mettre là où vous voulez. Mais là où vous voulez, moi je l'ai un peu travaillé.
Comment vous abordez l'écriture ? Parce que j'imagine que travailler avec des non-musiciens génère une notation différente.
Alors, complètement. Donc, on est sur des choses complètement graphiques. Avec des, on note des allures, des dynamiques, on note des choses mnémotechniques. On note alors, si c'est vocal, par exemple, ben, évidemment, on passe par des mots qui servent de prétexte, qui servent de support, en fait, à des formes sonores. Et si c'est instrumental, j'évite quand même de travailler trop les instruments avec des amateurs, parce que là, c'est vraiment... On sort pas de l'amateurisme, quoi. Alors qu'avec la voix, on peut très bien arriver à des choses assez parfaites. Et en fait, moi, je travaille pas des amateurs, en fait. Je travaille avec des gens non musiciens que je transforme pendant le temps d'un concert professionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'auditeur entende un amateur. Il entend des gens. Et ce qu'il entend des gens, c'est formidable. Et si c'est pas formidable, ça devient des amateurs. Et là, c'est pas bien. Donc, j'aimerais bien que les gens que j'embarque dans cette affaire sachent que ce qu'on va entendre d'eux, c'est très bien. C'est parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, quoi. C'est pas de l'exécution. Et donc, la notation est évidemment très particulière. Elle est plutôt un support mnémotechnique à des choses qu'on a beaucoup travaillé dans le temps. D'où l'idée de résidence très longue et d'implantation et d'engagement entre nous, qui fait qu'il y a des choses que c'est presque la tradition orale, en fait, hein, dont la partition devient simplement le support mnémotechnique, en fait. Elle n'est pas seulement le lieu de l'écriture, en fait.
Difficile de parler de votre démarche sans parler de l'aspect politique au sens premier du terme, c'est-à-dire la cité. Comment vous situez-vous, vous, comme compositeur ? Quel rôle vous avez à vos yeux dans la cité ?
C'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est de participer à la visibilité de mon époque. Je dis visibilité par modestie, j'aurais envie de dire à la transformation de mon époque, ouais, à sa modification. Et donc du coup, c'est pas pour rien, évidemment, que je me retrouve dans des endroits où ça travaille, où ça se soigne, où ça apprend, où ça se déplace, parce que je trouve ça intéressant de m'occuper de ces questions. Comment est-ce qu'on se déplace? Comment on se soigne? Comment on apprend? Comment on se parle? Et voilà. Et toutes ces choses sont évidemment des choses politiques au sens large du terme. C'est un travail sur les rapports sociaux. Et du coup, sur cette question du désir, par exemple, on peut imaginer que c'est une question assez personnelle, finalement assez privée, assez psychologique, assez... Mais en fait, on va très vite se retrouver sur la question du désir collectif, sur la question de la mobilisation, sur la question de savoir comment est-ce qu'on se passe mutuellement des idées. La différence entre le désir et l'envie, c'est que l'envie, on a envie d'avoir. Donc on a envie de chocolat, on a envie de fraises, on a envie de voiture, on a envie de chocolat. Alors que le désir, c'est un désir d'être. Et le désir d'être, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et en fin de compte, le désir d'être, il ne peut pas se faire tout seul. Il tient forcément compte des autres. Le désir d'être, c'est une question politique, c'est une question publique. D'où la réponse que je vous fais, à savoir, effectivement, pour moi, y compris sur cette thématique là qui a l'air d'être comme ça un peu psychologique ou affective ou intellectuelle, en fait, elle retombe très très vite sur la question de la mobilisation collective et de la perception qu'on a chacun de ce qu'on peut faire dans sa vie, avec qui, dans quel contexte, et quelles sont les offres qu'on a pour le faire.
Le Le mot est quelque chose d'important pour vous, l'écriture.
Oui, j'écris beaucoup. Et
vous
j'ai
écrit un journal même.
J'ai écrit un journal et j'écris dans tous mes projets. Là, aujourd'hui, je vous parle, mais depuis 2 ans que je suis sur cette création, j'ai écrit des centaines de pages. Hein. Tous les jours, j'écris. Et c'est cette sédimentation en moi qui fait que quand j'aborde la musique, je sais exactement ce que je vais écrire. Parce que me suis tout dit. Et alors après, je passe dans la musique et il n'y a pas de paroles dans ce que je fais, il y a très peu de paroles. Il peut y avoir des textes, il y a des textes affichés, des textes sur le programme, il y a des textes, mais il y a assez peu de textes chantés parce que j'aime pas trop quand on écoute les paroles. Enfin, j'ai envie qu'on écoute les sons. Et dès qu'on met des mots, les gens écoutent le texte et ils se racontent une histoire et je trouve ça embêtant. Je suis pas un fanatique de l'opéra, vous aurez compris.
Concert semble vous intéresser finalement tout ce qui est fixé, vous refusez les publications, refusez le disque, refusez. C'est ce moment unique que vous.
Oui, c'est le vivant, c'est le politique, c'est le moment organique, c'est le corps, c'est la présence, c'est cette espèce de chose qui fait qu'on est vivant et qu'il faut pas se voilà, il faut pas se mortifier, il faut pas s'immobiliser, il faut pas il faut avancer et avec ce formidable sentiment que les gens pour m'entendre, sont obligés d'attendre que j'ai fait mon travail, un peu comme le boulanger. Hein, ma structure s'appelle les musiques de la boulangère. Et donc, ils attendent que j'ai fait mon pain. Et ils viennent écouter le pain. Et ils savent que c'est ce moment-là pour l'écouter et qu'il faut qu'ils soient patients. Dans un an ou dans 2 ans ou dans 3 ans, il y aura un nouveau pain. De toute façon, entre-temps, il y a tous mes confrères qui font plein de choses, donc ça va. Et il n'y a pas besoin de m'écouter tout le temps. Et il faut que je laisse la place aux autres.
Votre catalogue est un catalogue éphémère.
Il n'est pas éphémère puisque, enfin, il est dans le souvenir de chacun. Il est instantané, comme tous les instants de la vie, qui sont pas éphémères parce qu'on s'en rappelle. Ils sont instantanés. Et j'ai un catalogue mental. Enfin, et tous les gens qui suivent mon travail ont un catalogue mental et se rappellent beaucoup. Sans arrêt, on vient me reparler des choses que j'ai fait. Les gens sont très généreux et très marqués par des détails ou des choses que j'ai pu faire. Je suis étonné de voir comment, justement, comme ils savent que c'était un moment un peu unique, ils ont mobilisé une mémoire unique. Alors que s'ils savent qu'ils peuvent réécouter, en fait, on peut écouter d'une oreille.
À quel moment vous vous êtes dit je ne vais pas créer un catalogue normal entre guillemets pour un compositeur?
Dès que j'ai été en mesure de faire des enfants, je savais que je n'en ferais pas. Donc j'ai pris des décisions pour ne pas en faire et donc j'ai pris des décisions pour ne pas me reproduire. Et donc je ne me reproduis pas. Donc je ne suis pas dans la procréation, je suis dans la création. Je ne suis pas dans la reproduction, je suis dans la production. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avancer et de me transformer et de ne pas être le même le lendemain et de ne pas laisser derrière moi... je fais le ménage derrière moi et je laisse la place aux autres. Je suis vivant, quoi. Je suis vivant.
Après ce projet, elle s'écoule.
Beaucoup de choses.
Alors déjà, pourquoi elle s'écoule?
Parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans cette affaire de désir, il y a de la tempête, il y a de la frénésie, il y a du doute, il y a de l'effondrement, il y a de l'abandon, il y a de l'impossibilité, il y a de la passion, il y a un truc de... Mais pendant ce temps-là, la vie s'écoule. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui m'a, qu'il y a un paradoxe qui m'a ébloui, c'est que j'aborde un sujet qui est extrêmement agité, qui est extrêmement animé, qui passionne tout le monde. D'ailleurs, quand j'ai dit que je travaillais sur le désir, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, mais c'est un super sujet, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ?» Et on a l'impression que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le désir. Et en même temps, je voulais montrer que derrière cette thématique très folle, enfin très forte, qui nous parle à tous, il y a aussi une continuité, et on gère une continuité de tout ça. Et c'est ça qui arrive aux adolescents, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer cette continuité. C'est-à-dire qu'ils sont pris dans des choses. Nous, avec l'âge, on a appris à organiser nos désirs dans une typologie à lâcher faire. Mais à cet âge-là, les désirs peuvent vous tuer. Hein, ils peuvent vous effondrer, ils peuvent vous enfermer, ils peuvent vous faire rendre dépressif. C'est une grande question à l'adolescence. C'est qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais de ce qui arrive à mon corps? Et mon corps qui attend toute la vie, et en face de moi, la vie me répond, bah, peut-être pas. Peut-être on va pas te le donner, ou il faudra peut-être que tu le prennes de force ou pas. Et puis il y a tous les gens qui sont inhibés, qui sont censurés, qui sont timides. Enfin, une effroyable timidité à l'adolescence. On refuse son corps. Et donc je voulais, voilà, je me suis dit, j'avais envie d'un titre qui parle de la continuité de toute cette affaire.
Page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Né à Bordeaux en 1960, Denis Boss étudia dans sa ville natale avec François Rosset, puis à Bruxelles avec Frédéric Chevski. On le retrouve compositeur en résidence au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal dans les années 2000, et même lauréat du concours de composition Gustav Mahler en Autriche en 2002. Denis Boss développe une pensée qui cherche à appréhender les phénomènes sonores et musicaux. Il s'intéresse à ce qui se passe entre les matériaux et à la façon dont ils sont subjectivés, comment ils apparaissent et disparaissent. Denis Boss est l'invité de ce tapage nocturne.
La loi, la loi perdue.
Bonsoir Denis Boss.
Bonsoir.
Alors vous avez signé il y a quelques mois un opéra, La Lettre Volée, d'après le texte éponyme d'Edgar Poe. Pourquoi ce choix et pourquoi ce choix d'un texte aux lectures multiples ?
Ah, c'est un choix, je dirais, psychanalytique au départ. Donc La Lettre Volée, je l'ai connue à travers Jacques Lacan et son séminaire sur La Lettre Volée, que m'avait fait découvrir un de mes meilleurs amis qui s'appelle Pascal Nauté, qui est lui-même psychanalyste, qui avait beaucoup étudié ce texte. Lorsqu'il m'a raconté comment Lacan avait abordé La Lettre Volée, aussitôt j'en ai, disons, conçu un drame qui m'est apparu vraiment très clairement. D'autant plus que dans le texte de Lacan, il est déjà évoqué presque d'une façon prémonitoire, je dirais.
Comment vous avez transcrit cette complexité simple ou cette simplicité complexe de Poe ?
Eh bien, on a collé au texte le plus possible. Donc ça, c'est vraiment... c'était une découverte d'ailleurs, donc pour écrire le livret. On a vraiment essayé de voir comment on pouvait respecter la structure, je dirais même la composition de cette nouvelle, qui est en soi effrayante. Tellement rien n'est au hasard et tellement on doit... se résoudre à dire que tout est là pour quelque chose de bien précis.
J'ai été informé personnellement qu'un certain document de la plus haute importance a été soustrait dans les appartements royaux. Primo, on connaît le voleur. On l'a vu en train de voler. Version. Il est toujours en possession du document. Par la nature du document.
Et car rien n'est encore.
Soyez un peu plus clair.
Détenir ce papier donne un
pouvoir énorme.
Toujours rien.
Imaginez qu'un troisième personnage, dont je ne dis pas le nom, prenne connaissance du document. Il en irait de l'honneur d'une personne du plus grand. C'est un ascendant sur elle.
J'ai lu dans votre biographie que vous aviez fait des études, avant les études musicales, des études scientifiques.
Oui.
Est-ce que ça a nourri votre composition ?
Oui, je crois, pas d'une façon directe, mais à force de travail, je crois que j'ai réussi à intégrer les mathématiques dans la musique, à trouver un lien, je dirais, que je ne saurais pas expliquer d'une façon très précise, mais il y a beaucoup d'interventions des mathématiques dans mon travail, oui. Disons que pour moi, la musique, c'est une sorte de mélange, enfin de rencontre entre quelque chose de très contrôlé et quelque chose de très lâcher-prise, si je peux dire. Et donc, de cette rencontre-là, d'un côté, la structure mathématique et de l'autre côté, l'instinct, si j'aime pas trop ce mot, mais enfin, voilà.
C'était le cas pour La Lettre Volée ?
Oui, ah oui, alors vraiment à son maximum, je pense, ouais. Ouais. Et surtout du côté du lâcher-prise, où le fait d'écrire une musique qui à destination dramatique a vraiment exigé quelque chose de plus libre, tout en respectant une structure, évidemment.
Thank you.
Vous dites que vos préoccupations rejoignent celles de Nono et de la Renman.
Oui, d'un certain côté.
Vous voyez une filiation entre vous, entre votre travail et le leur ?
Oui, je crois quelque part au niveau de la pensée, surtout avec Luigi Nono, au sens que pour moi la pensée c'est vraiment très important dans la création, et des questions philosophiques telles que celles que se posait Nono, à savoir quel son vient après un autre son et pourquoi, et pourquoi on peut parler de tragédie de l'écoute par exemple, ce sont des choses qui m'intéressent beaucoup, ouais. Ensuite, chez Larenman, la sonorité construite, structurée, élaborée, est aussi quelque chose qui m'intéresse. Mais je pense que par rapport à l'opéra, en tout cas, là, je suis beaucoup plus proche d'Apergis, en fait.
Vous dites, quelle est cette écoute qui produit et transforme le son qu'elle écoute ? Quelle est la nature de la relation ainsi créée et dans quels espaces sonores se situe-t-elle ? Alors ça mérite peut-être une petite explication.
Oui, et ben c'est ça, c'est ce genre de question, hein. Donc c'est vraiment
Le champ de l'inaudible.
Oui, les champs de l'inaudible, ça c'était tout un cycle de réflexion philosophique sur l'écoute. Mais disons l'écoute au sens qu'est-ce qui m'arrive lorsque j'écoute ? En quoi le son est créé lorsque j'écoute ? Voilà, quelle est la part de l'auditeur dans la création ? de ce qu'il écoute lui-même. Ouais. Donc j'ai écrit une pièce comme ça qui s'appelle Aku Omae, qui veut dire « Je m'écoute écoutant ». Ouais. Et on peut trouver là, par exemple, la définition d'un silence, ça serait le silence, l'écoute de l'écoute, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça va dans cette direction-là. Donc comment les sons apparaissent, comment ils disparaissent, qu'est-ce qui fait que dans mon écoute, j'ai plusieurs modes qui vont faire que ce son me parvient. Ou... Là, donc, on peut aussi parler de mode d'écoute. Donc le but de ce cycle, c'était d'essayer de travailler ces modes-là, de trouver différentes façons d'inciter à certaines écoutes ou d'autres.
Le lien de l'écoute et du temporel ?
Ça, c'est une question difficile, oui. Bah, disons que je ne l'ai pas dissocié, a priori. Ça se retrouve peut-être dans certains modes d'écoute qui sont plus temporels que d'autres, je dirais ça. Certains sont plus instantanés, d'autres, par exemple, la disparition est déjà une petite forme en soi qui s'inscrit dans le temps. J'écris, par exemple, des lettres musicales. Il y a des gestes qui sont basés sur une écoute particulière à un moment donné. Voilà.
Justement, parlons un peu de ces lettres. Est-ce que c'est une forme d'hommage que vous rendez aux musiciens que vous aimez ?
Eh bien non, pas du tout. Justement pas. C'est, en fait, ça, je me sens toujours mal à l'aise avec les hommages. Je trouve que c'est quelque chose de redoutable, en fait, de rendre hommage. Déjà, il faut savoir quelle position on prend quand on rend hommage. Enfin, je me sens pas à l'aise avec ça. Par contre, m'adresser à des gens que j'aime ou pas, ça peut être...
Dans la série des lettres, il y a des gens que vous n'aimez pas.
Bah oui.
Je ne vous en donnerai pas des noms.
Non, disons, c'est pas que je les aime pas, non, je n'irai pas jusque-là, mais disons, j'avais quelque chose de spécial à leur dire, voilà.
Vous avez écrit combien de lettres ?
Je ne sais pas, plus d'une vingtaine, je pense, quelque chose comme ça, oui.
Difficile d'évoquer votre parcours sans évoquer la pédagogie.
Oui.
Est-ce que pour vous, la transmission, c'est quelque chose d'important?
Oui, mais j'aime bien ce mot, la transmission, voilà, plutôt que celui de pédagogie, surtout en composition. Beaucoup disent que la composition, ça ne peut pas s'enseigner, et d'un côté, ils ont raison, mais en même temps, on peut quand même accompagner, apprendre soi-même, lorsque on est avec un étudiant, quelque chose de nouveau, et puis aussi mettre à l'épreuve aussi, avec une altérité là, très proche, sa propre démarche. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt deux musiciens qui se rencontrent. L'un est un petit peu plus expérimenté dans sa direction, et l'autre est en train de commencer, et c'est plutôt comme ça que je vois la pédagogie. Donc finalement, c'est pas de la pédagogie, c'est plutôt voilà, une rencontre, quoi.
Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
On parle de vous parfois comme un compositeur de l'inconscient. Vous aimez cette définition ?
Bof. Oui, disons qu'effectivement, l'inconscient, pour moi, c'est très important. L'inconscient dans la musique et dans la vie, oui. Je pense que quand on dit ça, c'est un peu réducteur. Donc je n'aime pas tellement cette définition-là, mais quand même, oui, l'inconscient, c'est quelque chose qui, au niveau du son, se rapproche évidemment de l'inaudible. On peut faire une sorte de parallèle comme ça entre l'inconscient et l'inaudible. Finalement, la musique, c'est s'écoute là où on l'entend pas. C'est ça qui est intéressant.
Sentez que vous mêlez finalement deux axes, le rationnel et l'irrationnel.
De plus en plus, oui. Oui, de plus en plus.
C'est très grisé, ça.
Grisé. Oh, quelle comparaison flatteuse, merci. Mais grisé, oui, c'est un point magnifique chez lui, effectivement. Mais en même temps, peut-être pas aussi précis. Je crois que le rationnel, chez moi, il est combattu, il devient un peu dionysiaque. Il y a quelque chose où il y a quand même un grand conflit, une sorte de tension extrême entre le rationnel et l'irrationnel, qui fait que parfois, ça se passe pas toujours sans dommage. Donc c'est pas toujours une rencontre sereine.
vos projets?
Le premier projet ici maintenant, c'est la création d'une pièce pour guitare à Bruxelles, donc par Magali Richette, qui est donc une concertiste belge. Ensuite, alors c'est une lettre à Marjorie Libéry. Voilà, donc
que vous aimez bien
ou... Oui, ça c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'ai connu à Bordeaux du temps où il enseignait au conservatoire et qui était vraiment quelqu'un qui m'a fait découvrir la musique et qui m'a permis d'y accéder. Voilà, c'était vraiment un grand musicien que je regrette beaucoup. Et puis, ensuite, un projet donc sur des poèmes de Gerasim Luka. Avec pour trois voix, un ensemble instrumental pour le festival Gamo à Florence. Et ensuite, alors quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est un madrigal contemporain. Donc, à partir d'un texte d'un philosophe et scientifique, là, à nouveau, la dualité qui se présente, d'un philosophe et scientifique belge, liégeois, qui s'appelle Tinès, Gérard Tinès.
Merci beaucoup en tout cas Denis Boss d'être venu nous voir dans cette émission et à bientôt.
Avec grand plaisir.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Bernard Laniel, attaché de production Soizic Noël, réalisateur Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Création Mondiale, l'émission d'Anne Montaron.
À réécouter sur francemusique.fr.